بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va continuer dans la lignée des cours sur Boulour al-Maram qu'on faisait déjà tous les samedis. Donc on est arrivé au hadith 1296. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه. Donc ici le hadith dit, le fait d'insulter un musulman ou de parler en mal d'un musulman est de la désobéissance, et le fait de le combattre est de la mécréance. Donc ça c'est dans les deux sahih. Al-Sibab il dit dans l'explication, Al-Sibab il dit, قال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه. سباب المسلم, donc le fait d'insulter un musulman, ici il dit c'est plus global que le simple fait d'insulter, c'est de le critiquer en disant quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Donc il dit dans l'explication, الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته وأن سباب المسلم من معصيته التي نهى عنها وحرمها. Donc الفسوق, qu'est-ce que ça veut dire الفسوق, dont on tire le mot fasiq. Il dit c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah vers sa désobéissance. Et le fait donc de mal parler d'un musulman ou de l'insulter fait partie des désobéissances qu'il a interdit. مفهوم الحديث أن سباب الكافر جائز ولكن إن كان كافرا معاهدا فهو أذية له وقد نهي عن أذيته فلا يعمل بمفهوم الحديث في حقه من أدلة واعتبارات أخرى. On pourrait comprendre du hadith donc que le fait d'insulter un non-musulman est permis, puisqu'ici il parle simplement du fait d'insulter ou de mal parler plutôt d'un musulman. Mais il dit si c'est un musulman avec lequel on a un pacte, c'est-à-dire ou qui appartient à un peuple avec lequel on a un pacte, alors c'est une nuisance envers lui et donc c'est interdit. Donc c'est pas, on ne comprend pas du hadith que c'est permis, mais plutôt c'est interdit par rapport à d'autres preuves et d'autres hadiths. المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامة. Donc ce qui est voulu ici dans l'interdiction de parler en mal d'un musulman, c'est celui dont l'aspect apparent c'est la droiture. أما الذي خلع جلباب الحياء وجاهر بالمعاصي فهذا لا ريبة له ولا لسبابه حرمة. Quant à celui qui a enlevé le voile de la pudeur et qui extériorise ses péchés, celui-là il n'y a pas de médisance ni de sibab. Donc le sibab c'est le mot global qui veut dire le fait de parler en mal de lui à son sujet. C'est-à-dire c'est pas interdit puisque lui-même il dévoile ses péchés et les montre. فقد أخرج مسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين رواه البخاري ومسلم. Et dans les deux sahih, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit toute ma communauté est préservée sauf ceux qui extériorisent leurs péchés. وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم. Ce sont ceux qui extériorisent leurs péchés et qui les font ouvertement et qui donc gâchent le fait qu'Allah les ait cachés et caché leurs péchés. وقوله وقتاله كفر. Donc la parole du prophète, le fait de combattre un musulman est de la mécréance. فمعناه أنه إذا استحل قتال المسلم فهو كافر كفرا يخرج من الملة. Ça veut dire que si il combat un musulman en pensant que, en rendant licite le fait de le combattre, alors il sort de l'islam. C'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Parce qu'en faisant ça, il aura démenti les preuves claires et les preuves authentiques qui interdisent de combattre un musulman. Donc là, on s'arrête. Shir, ce qu'il dit ici, c'est que quand le prophète dit le fait de combattre un musulman, c'est de la mécréance, ça, c'est dans le cas, ça sera de la mécréance qui fait sortir d'islam dans le cas où il le combat en pensant ou en déclarant que ce qu'il fait c'est licite. Et ça c'est pas seulement vrai pour le fait de combattre un musulman, mais c'est vrai pour tous les péchés. Celui qui fait un péché en déclarant qu'il est licite, en faisant ça il aura démenti les textes de la religion et donc il aura mécru à l'islam, que ce soit pour la fornication ou l'usure, etc. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّ قِتَالَهُ فَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالْأُخُوَةِ الْإِسْلَامِيَةِ. Quant à la situation où il combattrait un musulman sans dire que c'est licite, simplement il le fait comme quelqu'un fait un péché, alors ce qui est voulu par la mécréance ici, c'est le fait de renier les bienfaits, parce que le mot kufr à la base veut dire cacher ou renier. Donc ce qui est voulu dans le hadith, c'est du kufr, c'est-à-dire c'est renier le bienfait d'Allah, c'est renier la bienfaisance, c'est renier la fraternité islamique. Donc c'est pas la mécréance qui rend une personne non musulmane. فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريمة جحود لها. Car le fait de renier et de repousser ce genre de signification, c'est-à-dire comme la fraternité islamique, c'est un certain reniement quelque part. فهو كفر نعمة لا يخرج من الإسلام. Donc c'est un reniement du bienfait d'Allah qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc ce qui veut dire ici, Shir, donc ça on en retire une leçon globale, c'est que parfois la religion elle applique à des péchés le mot kufr, qui à la base veut dire mécréance, sans pour autant que le péché soit de la mécréance. Comme ici, il a dit qital ul muslimi kufr, le fait de combattre un musulman c'est de la mécréance. Est-ce que pour autant une personne musulmane qui viendrait à se battre ou à combattre un musulman et sortirait d'islam? La réponse elle est dans le livre d'Allah, quand Allah dit wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes de croyants se combattent, alors réconciliez-les. Donc il les a appelés croyants alors qu'ils se combattent. Donc ce qui prouve que le fait qu'ils se combattent ne les a pas fait sortir de l'islam. Donc à la lumière de ça, on comprend que le kufr qui est voulu dans ce hadith, c'est-à-dire, ça s'appelle de la mécréance, mais ce n'est pas de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Ça fait partie des caractéristiques des mécréants. Donc on appelle ça « el-kufr al-ashar » ou « kufrun duna kufr », c'est-à-dire la mécréance mineure. Comme il y a le shirk al-ashghar, le polythéisme ou l'associationnisme mineur. Et à ça, il y a beaucoup de preuves. Donc, dans le fait que, et ça c'est le madhab de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, que le kufr s'applique parfois à des choses qu'il faut sortir de l'islam et parfois au péché. Et que les grands péchés ne font pas sortir une personne de l'islam. Conformément à beaucoup de hadiths, notamment. Le hadith de Abu Dhar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man mata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, ou un hadith semblable, c'est-à-dire il a dit celui qui dit la ilaha illallah rentre au paradis. Et Abu Dhar lui a dit wa in zana wa in saraq, même s'il fait la fornication et il vole. Et le prophète répondait à chaque fois wa in zana wa in saraq, même s'il fornique et il vole. Et Abu Dhar lui redemande wa in zana wa in saraq, même s'il fornique et il vole. Et le prophète répète wa in zana wa in saraq, même s'il fornique et s'il vole. Et la troisième fois Abu Dhar lui dit wa in zana wa in saraq, même s'il fornique et même s'il vole. Et le prophète y répète une troisième fois sallallahu alayhi wa sallam wa in zana wa in saraqa rahma anfi Abi Dhar. Il lui a dit même s'il vole et même s'il fornique et n'en déplaise à Abu Dhar. C'est-à-dire que le fait de sorte de forniquer ou de voler ne fait pas sortir de l'islam. Et pourtant, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Le hadith dit la personne au moment où elle fornique n'est pas croyante, et la personne au moment où elle vole n'est pas croyante. On pourrait en comprendre, ça veut dire elle sort de l'islam en commettant le vol, et elle sort de l'islam en commettant la fornication. Mais ce qui est voulu ici, il n'a pas dit « laïsa bi muslim ». S'il avait dit « il n'est pas musulman », là il n'y aurait pas de divergence, ça serait de la mécréance. Mais il a dit « il n'est pas croyant ». Et le mot « croyant » s'applique au croyant qui est le musulman qui a complété sa foi, qui a atteint la foi complète, la foi qui lui permet au jour du jugement de rentrer au paradis directement, sans passer par l'enfer. C'est-à-dire la foi d'une personne qui a accompli tout ce qui lui est obligatoire et qui a évité tout ce qui est haram, ça veut dire ce qui est interdit de façon stricte. Cette personne-là, on l'appelle mu'min. Et une personne peut être musulman sans pour autant qu'on l'appelle mu'min, c'est-à-dire croyant. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman, mais il n'a pas encore mérité le nom de mu'min, qui ne s'applique qu'aux croyants complets. Donc le prophète dit ici, la personne, au moment où elle fornique, n'est pas mu'min. C'est-à-dire, sa foi, elle est faible. Et il n'a pas la foi complète quand il fait la fornication. Ou alors, il n'a pas la foi complète quand il commet le vol, etc., etc. Quelle est la preuve à ce que je dis ? L'autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit sur celui qui dit « La ilaha illallah » qu'il rentre au paradis, même s'il fornique et même s'il vole. Donc, à la lumière de ce texte, on comprend l'autre texte.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit méfiez-vous du soupçon ou de la présomption, car le soupçon est le parler le plus mensonger.
Ça, c'est dans les deux sahih. Donc, Cheikh dit, الظن هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان. الظن, donc qu'on a traduit ici par le soupçon ou la présomption, c'est ce qui peut passer dans l'esprit de la personne qui lui fait s'imaginer des choses qui peuvent être vraies comme elles peuvent être fausses.
فيحكم بهذا الظن الذي لم يبني على قرائن قوية وأمارات صحيحة ويعتمد عليه ويجري عليه أحكام الحقائق الواقعة وهذا هو الذي حذر منه هذا الحديث الشريف إياكم والظن.
Et la personne, après, elle va, la personne qui a des soupçons ou qui fait de la présomption, elle va se reposer sur ce soupçon, cette présomption qui n'est pas à la base construit sur des vrais indices et sur des vrais signes. C'est simplement des soupçons et des présomptions qui sont dans sa tête et dans son esprit. Donc c'est pas basé sur des vrais indices et des vraies informations, mais après il va agir en conséquence de ce soupçon et de cette présomption qui à la base n'est pas construite. Et c'est de ça donc que le prophète, c'est contre ça que le prophète ici nous met en garde en disant méfiez-vous des présomptions. Donc pour résumer, c'est qu'une personne, elle s'imagine des choses sur une personne ou sur des personnes, et elle a des soupçons ou des présomptions sans indice. Donc ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il n'y a pas d'indice qui prouve ce qu'elle dit, il n'y a pas de preuve qui prouve ce qu'elle dit, et malgré ça, après elle agit en conséquence de ce qu'elle s'est imaginé. Donc ça, ça fait partie, ça c'est interdit dans l'islam.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
Et le verset dit, ô vous qui croyez, évitez la plupart du soupçon, car une partie du soupçon est un péché.
قال المفسرون هو أن يظن بأهل الخير سوءا.
Et les gens de l'interprétation du Coran ont dit, c'est qu'ils pensent du mal des gens de bien. C'est-à-dire, c'est celui qu'il faut éviter.
فالظن القبيح عمن ظاهره الخير لا يجوز وهو المراد بقوله إن بعض الظن إثم.
Donc le fait de penser du mal de quelqu'un qui en apparence est bon est interdit.
أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر لنا منهم.
Quant aux gens du mal et aux gens de la désobéissance, alors il nous est permis de penser d'eux ce qui est conforme à ce qu'ils ont laissé transparaître.
فلا يضر الظن السيء لمن بدت منه مخايله.
Car il ne nuira pas à une personne qu'on passe du mal de lui si déjà elle a extériorisé son mal.
وظهرت منه أماراته.
Et si l'indice et les signes du mal sont extériorisés chez elle.
فقد أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احترسوا من الناس بسوء الظن.
Et dans ce sens, il y a un hadith qui a été rapporté dans Al-Awsat de Al-Tabarani et dans les Sunan d'Al-Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Mais protégez-vous des gens par le mauvais soupçon. » C'est-à-dire, ça s'applique aux gens mauvais. Les gens mauvais, donc, on va penser d'eux selon ce qu'ils laissent transparaître. Et donc, on va se protéger d'eux.
« قال النووي رحمه الله المراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به رواه البخاري ومسلم.
الإمام النووي دي Rahimahullah. Donc le sens de sa parole, c'est que ce qui est voulu dans le hadith, c'est une mise en garde contre le fait d'accuser réellement les personnes et de rester sur son accusation, pas ce qui peut passer dans l'esprit et qui n'y reste pas, parce que ça, la personne, elle n'est pas laysat bimukallafa, c'est-à-dire on n'est pas responsable de ce genre de choses, c'est-à-dire les choses qui passent par notre esprit, ça on peut pas le contrôler. Mais ce qui est voulu et ce qu'on doit éviter, c'est la chose, elle te passe par l'esprit, puis elle reste. Et tu en découles des accusations et des soupçons, etc. Par contre, les soupçons qui passent comme ça par ton esprit, ça, tu peux pas le maîtriser et c'est pas grave. Car le hadith dit, il cite ici, Allah ne prend pas en compte pour ma communauté ce qu'elle se dit en elle-même tant qu'elle ne le prononce pas ou qu'elle n'agit pas en conséquence. Ça, c'est dans les deux sahihs.
Après, il dit, الزمخشري قسم الظن إلى أربعة أقسام وهو تقسيم حسن فقال محرم وهو سوء الظن بالله تعالى وسوء الظن بكل من ظاهره العدالة من المسلمين فمن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم بخلاف من اشتهر بتعاطي الريب.
Il dit ici, il cite une parole de Az-Zamakhshari. Il dit, Az-Zamakhshari a divisé Az-Zan, donc le soupçon ou la présomption, en quatre catégories. Et il a dit la façon dont il l'a divisé, c'est pas mal, donc on va le citer. Il dit la première partie, c'est ce qui est interdit. Et c'est notamment le fait de penser du mal d'Allah et le fait de penser du mal des personnes qui sont bonnes en apparence. Donc celui qui est connu pour Al-Amana, c'est-à-dire pour être une personne de confiance dans son apparence, alors il est interdit de penser de lui du mal et de penser que c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance. Ça c'est haram, ça veut dire c'est interdit. Contrairement à celui qui au contraire est connu pour l'inverse de ça. Celui-là on peut penser ce qu'on veut de lui puisqu'il l'a lui-même extériorisé.
وَوَاجِبٌ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى.
Et il fait partie des soupçons, entre guillemets, الظن, qui sont, ou de la présomption, ou des sentiments qui sont obligatoires. C'est le fait de penser du bien d'Allah Azzawajal. Ça, c'est obligatoire.
Mandoub, husn al-dhann biman dhahiruhu al-adalah min al-muslimin.
Et des présomptions, entre guillemets, qui sont recommandées, ce sont les bonnes présomptions envers les gens qui sont en apparence bons parmi les musulmans.
Wa mubah man dhaharat amaratu fisqihi wa dakhala fi madakhil as-su.
Et les présomptions qui sont licites, c'est le fait de penser du mal d'une personne sur qui sont apparents les signes de la désobéissance.
إنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة.
Et à la fin, il conclut le Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, en disant pourquoi le prophète ici, il a dit que la présomption ou le soupçon est le parler le plus mensonger. Il dit parce que le mensonge, c'est le fait d'être contraire à la réalité des choses sans appui. C'est-à-dire sans argument, sans preuve. C'est dire quelque chose qui est contraire à la réalité, sans fondement. Et Avan, c'est ça. Donc la présomption, c'est ça. Parce que tu te fais des histoires et des idées sans preuve et sans fondement.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
متفق عليه. Le hadith suivant, il dit, donc Ma'qal ibn Yasar dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne à qui Allah confie des gens sous sa responsabilité. Donc ra'iya, c'est comme le troupeau, on l'appelle aussi celui, le berger, on l'appelle ra'i, pour que vous compreniez d'où ça vient le mot. Donc il n'y a pas une personne à qui Allah confie des gens qui sont sous sa responsabilité et il meurt alors qu'il les trompe, c'est-à-dire le jour où il meurt, il se trouve qu'il est en état où il les trompe sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Ça c'est dans les deux sahih. Donc il dit dans l'explication,
هذا الحديث يتضمن وعيدا شديدا للولاة الذين لا يهتمون بأمور رعيتهم.
Donc ce hadith contient une grande menace pour les al-wulat. Al-wulat, c'est quoi? C'est celui qui a une responsabilité sur quelqu'un, qui ne prête pas attention aux affaires de ceux qui sont sous leur responsabilité.
وَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا لِمَا يَعُودُ عَلَى مَصَالِحِهِمْ الْخَاصَّةِ.
Et ils ne regardent que ce qui revient à leur avantage spécifique, c'est-à-dire à leurs avantages individuels.
وَسِيَاسَةُ الَّتِي تَخْدُمُ مَصَالِحِهِمْ وَأَغْرَادِهِمْ.
Et ils ne regardent que la politique qui pourrait leur amener du bien et qui sert leur avantage.
حتى ولو كانت هذه السياسة فيما يضر بمصالح الرعية في دينها ودنياها.
Même si cette politique peut causer du mal à sa communauté dans leur religion ou dans leur vie d'ici-bas.
ثانيا الوعيد الأكيد والعذاب الشديد منصب على هؤلاء الرعاة الغاشين.
Donc il y a une grande menace et un châtiment douloureux contre ceux, contre donc des responsables qui sont rachin. Rachin, c'est le contraire de ناصحين, c'est-à-dire ils sont trompeurs, ils sont pas de bonne intention envers les gens.
بأنهم إذا ماتوا على هذه الحالة فإن الله قد حرم عليهم الجنة التي هي السعادة الأبدية.
Cette menace, c'est que s'ils meurent dans cette situation, Allah leur interdit le paradis, qui est la demeure du bonheur éternel.
لأنهم لم يغشوا رعاياهم إلا لأجل سعادتهم في الدنيا باستعبادهم وجعلهم يشقون لحساب سعادتهم في حياتهم. فكان جزاؤهم أن الله حرمهم من السعادة الحقيقية
al-khalidati da'ima. Car ces personnes n'ont pas trompé donc les gens qui sont sous leur responsabilité, sauf pour leur bonheur ici-bas. Et donc, Allah, ils ont fait souffrir les gens pour leur propre bonheur ici-bas. Donc Allah va les récompenser par le malheur dans la vie future. Et qu'ils seront privés du vrai bonheur et du bonheur éternel.
ومن الغش ظلمهم بأخذ أموالهم بضرائب والمكوس واستيلائهم على حقوقهم الخاصة بأن الحيل من اختلاق ضرائب غير مباشرة.
Il fait partie de al-rish, donc du fait de tromper son peuple, de leur prendre leurs biens par des impôts et de transgresser leurs droits, le droit de leur peuple, par des tromperies et par des ruses. Et en inventant notamment des taxes qui ne sont pas directes. Donc notamment c'est ce qu'on peut vivre nous, dans des états qui prônent le droit des hommes, et pourtant ils prennent l'argent des gens sans aucun droit à la base. C'est-à-dire là il dit en inventant des impôts directs ou alors indirects, c'est-à-dire par des taxes, etc.
وَمِنْ رِشِهِمْ. Et il fait partie aussi de la tromperie. أَلِحْتِجَابُ عَنْ مَصَالِحِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ.
Il fait partie au fait que en fait, nous, de quoi on va profiter dans ce... Puisque là, il parle bien sûr des gouverneurs. Mais chaque musulman, comment il profite de ça? C'est parce qu'il faut savoir que chaque musulman est gouverneur. Si t'es pas gouverneur d'un pays, t'es gouverneur d'une maison. Ou t'es gouverneur d'un centre. Ou t'es gouverneur dans ton travail. T'as des employés qui travaillent pour toi, etc. Donc il faut pas penser que ce genre de hadith, on met tout sur les gouverneurs. Et on parle que sur eux. Ça, c'est une politique ou c'est une façon de faire qui est propre à certaines personnes, qui ont certaines intentions derrière leur discours. Mais le musulman sincère, il profite de ce genre de leçons. Et là, je lis ce chapitre parce que c'est la continuité du cours. On est arrivé à ce chapitre-là, c'est pour ça que je le lis. Il n'y a pas d'autre intention derrière. Donc chaque musulman, il profite de ce genre de leçons, notamment pour lui-même. Parce que ça, c'est global. Donc c'est pas seulement pour quelqu'un qui est gouverneur et qui gouverne 10 millions de personnes. C'est valable aussi pour le père de famille qui gouverne 2, 3 ou 4 personnes. Donc il faut être attentif à ce genre de paroles. Quand il dit, et aussi il fait partie de la tromperie, c'est le fait d'être loin de leurs avantages et de leurs besoins. C'est-à-dire que la personne, si tu as un besoin, eh ben, il est indisponible. Il n'est pas à l'écoute. Ça fait aussi partie de la tromperie et du manque de sincérité envers les gens qui sont sous sa responsabilité. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, pour traduire Al-Ra'iyya, les gens qui sont sous sa responsabilité. Parce qu'Al-Ra'iyya, c'est pas que le peuple. Al-Ra'iyya, ça peut être aussi les enfants. Pour la bonne femme, ses enfants sont sa Ra'iyya. Donc pourquoi traduire que par le peuple? Comme si ça c'était que pour les gouverneurs, alors que c'est pour tout un chacun qui a une responsabilité parmi les musulmans. Et il fait partie de la tromperie, il dit « وَمِنْ رِشِّهِمْ تَرْكُ الْمُفْسِدِينَ يَعِيثُونَ فِيهِمُ الْفَسَادِ بِالنَّهْبِ وَالسَّطْوِ بدون إقامة الحدود وردع المجرمين. Il fait partie du riche aussi, c'est que il laisse les gens du fasad, c'est-à-dire les gens du désordre, faire ce qu'ils veulent dans le peuple et dans les gens, sans les châtier et sans accomplir sur eux les peines légales. Et ça c'est valable aussi. Donc Cheikh là il parle des gens qui ont une grosse responsabilité. Qu'en est-il donc de... Certes on pourrait critiquer des gens qui laissent les gens du fasad dans les peuples des musulmans, certes, mais qu'en est-il de chaque père de famille musulman qui laisse la télé chez lui avec 100, 200 ou 300 chaînes, dont 95% des chaînes sont des chaînes soit musicales ou soit avec des films ou des feuilletons qui appellent à certaines idées, etc., etc. Donc celui-là, il est tout autant critiquable. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite voir que les gouverneurs. Certes, les gouverneurs, ils ont des fautes, ils ont des erreurs, et ils sont critiquables, mais il faut voir chacun avant de critiquer l'autre. Regarde toi-même. Ce genre de hadith, pourquoi tout de suite le coller à eux, alors que chacun d'entre nous, il laisse chez lui la télévision. Donc là, Cheikh parle des gouverneurs qui laissent dans le peuple les gens du fasad, c'est-à-dire par exemple les gens de la fornication ou les gens de l'alcool, et ils les laissent sans les punir. D'accord, mais n'est-ce pas que chacun d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, il laisse chez lui la télé. Et donc il laisse chez lui les acteurs, il laisse chez lui les chanteurs, il laisse chez lui les danseurs qui sont dans sa maison. Et ses enfants et sa femme, ils regardent. Et ça, c'est les gens du fasad. Donc ça revient au même.
pour comprendre que la responsabilité, elle est chez le petit des musulmans et elle est aussi chez le grand. Comme elle est chez le gouverneur, elle est aussi chez le gouverné. Chacun, il doit prendre sa responsabilité et c'est comme ça que la société, elle se construit. C'est pas en visant tout sur le gouverneur et nous qui sommes du peuple, on fait ce qu'on veut. C'est à chaque musulman de prendre sa responsabilité s'il veut prétendre corriger la société musulmane. Donc regardez là quand il dit, laissez les gens du façade faire ce qu'ils veulent sans les punir. Et toi, quand tu laisses la télé chez toi qui tourne avec la musique, est-ce que t'as pas laissé les gens du façade tourner chez toi, devant tes enfants, tes frères, ta femme, etc. Ou quand tu laisses Internet, et tu laisses les salons de chat, et les salons de paltok, hein, où on entend tous les pirates du monde qui parlent de la religion et qui disent ce qu'ils veulent. Donc t'as laissé les gens du façade chez toi.
ومن غشهم تولية الأمراء والقضاء والرؤساء ممن لا كفاءة لهم ولا أمانة وإنما ولوا من أجل القرابات والصلات.
Il fait partie de la tromperie aussi, c'est de mettre des responsables ou des juges ou des rouassa, donc tout ça ce sont des responsables qui ne sont pas dignes de leur poste, mais simplement parce qu'ils sont proches de ce gouverneur. Donc ça fait partie de le riche aussi.
رابعا الأحاديث كثيرة تدل على أن الغش من الولاة من الكبائر وأنه من المعاصي المتعدي ضررها وشرها.
Donc il y a beaucoup de hadiths qui montrent que el ghish venant des gouverneurs et des responsables fait partie des grands péchés. Et en plus ce sont des péchés dont le mal dépasse la personne, c'est-à-dire c'est un mal qui touche autrui.
قال ابن بطال هذا وعيد شديد على أئمة الجور.
Donc ابن بطال, donc il fait partie des savants du 5e siècle en Espagne et qui a écrit un char de Sahih al-Bukhari. Il dit ça c'est une grande menace pour A'immat al-Jawr. A'immat al-Jawr, c'est-à-dire les gouverneurs injustes.
فَمَنْ ضَيَّعَ مَنْ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ خَانَهُمْ فَقَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الطَّلَبُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
Donc celui à qui Allah a mis des gens sous sa responsabilité et qu'il les trompe, alors celui-là, il sera questionné à leur sujet au jour du jugement.
فكيف يقدر على التحلل من الظلم من أمة عظيمة؟
Donc comment est-ce qu'il va réussir à se dégager d'une injustice qui concerne une communauté énorme? Donc ça montre que comment le gouverneur il doit faire attention à être juste envers les gens qui sont sous sa responsabilité.
قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية.
Là ici c'est une parole de Cheikh l'Islam dans السياسة الشرعية. Donc entre guillemets la politique religieuse.
وقد دلت السنة على أن الولاية أمانة يجب أداؤها.
Il dit, il est montré dans la sunna que al-wilaya, c'est-à-dire le fait d'être responsable, l'imposte, est une amana, c'est un dépôt de confiance qu'on doit respecter.
فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل وما إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
Dans le Bukhari, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la confiance ou le dépôt de confiance sera méprisé, alors attends l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement. » On lui a dit « Et comment elle sera méprisée ?» Il a dit « Lorsque l'ordre sera désigné à autre que les gens qui en sont dignes, alors attends l'heure du jugement. »
ثم قال رحمه الله الولاة نواب الله تعالى على عباده وهم وكلاء العباد على أنفسهم.
Et aussi il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, les gouverneurs sont les responsables, les remplaçants d'Allah sur ses serviteurs, c'est-à-dire c'est eux qui vont juger. Et c'est eux à qui sont confiés les serviteurs à propos d'eux-mêmes.
Wal maqsoud bil wilaya islahu din al khalq alladhi mata fatahum khasiru ad-dunya khasiru khusranan bayinan wa lam yanfa'uhum ma nu'imu bihi fi ad-dunya.
Et ce qui est voulu par al-wilaya, c'est-à-dire le fait de gouverner dans l'islam, c'est d'améliorer la religion des créatures d'Allah, qui, s'ils la perdent, ils auront perdu d'une perte évidente, et ils ne tireront pas profit des bienfaits qu'ils auront eus ici-bas. C'est-à-dire, s'ils perdent la religion, les gens, ils ne profiteront pas, les biens qu'ils ont et les richesses qu'ils ont, ça ne leur profitera pas. La priorité, c'est-à-dire, c'est la religion.
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم.
Et aussi c'est de améliorer les choses de leur vie d'ici-bas sans lesquelles leur religion ne peut pas subsister. Donc c'est ça la politique islamique dans l'islam. La politique c'est de venir en
traiter les gens de sorte que leur religion soit préservée. Préserver la religion des gens et préserver la vie d'ici-bas des gens sans laquelle la religion ne peut pas être préservée. Donc c'est ça qui est demandé des gens qui sont responsables dans l'islam. Et donc le fait de s'occuper de leurs choses d'ici-bas qui aident leur religion, ça englobe deux choses. Le fait de distribuer les biens envers ceux qui en ont droit, donc notamment les biens de la zakat ou les biens du butin pour certaines situations. Et la deuxième, c'est de punir les transgresseurs. Donc que ce soit ceux qui ont commis certains péchés, ou alors al-mufsidoun, ou alors c'est-à-dire ceux qui commettent le désordre sur la terre, etc. etc. وإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان فإنه أفضل أهل زمانه وكان من المجاهدين في سبيل الله. Ibn Taymiyyah dit, quand la personne fait un effort, le gouverneur fait un effort, ou alors le responsable en général fait un effort pour améliorer la situation religieuse et la situation mondaine de ceux qui sont sous sa responsabilité, selon sa possibilité, alors il est la meilleure personne des gens de son époque. Il est le meilleur être humain de son époque et il fait partie des combattants fi sabilillah. فقد روى يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة رواه الطبراني. Et il a été rapporté dans At-Tabarani le hadith qui dit: un jour d'un gouverneur juste est mieux que l'adoration de 60 ans. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmed, le hadith dit: la personne la plus aimée d'Allah est un gouverneur juste, et la plus détestée auprès d'Allah est un gouverneur injuste. ومن الولاية النظارة على الوقف والقيام على الوصية والولاية على الصغير والقاصر والوكالة عن الحي والرجل في أسرته والمرأة في بيت زوجها وغيرهم. فكل هؤلاء ولاة فيما تحت أيديهم وهم مشمولون بدلالة عموم الحديث. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم. Et il dit ici, fait partie de al-wilaya dont on parle depuis tout à l'heure, le fait de, quand il t'est confié un testament, quand un mort il t'a confié un testament et tu dois le faire appliquer, ou alors l'homme avec sa famille, il rentre dans tout ce dont on parle tout à l'heure, ou alors la femme dans la maison de son mari, elle est en quelque sorte un gouverneur, parce qu'elle doit s'occuper de la maison et de ceux qui sont sous son ordre, c'est-à-dire les enfants. Ou alors celui qui est désigné pour un peuple ou un quartier, sans qu'il soit le gouverneur global, etc. etc. Tout cela, ils sont woulet, ils sont gouverneurs de ceux qui sont en dessous, de ceux qui sont sous leurs mains. Et ils sont contenus, ou ils sont concernés par le hadith qui dit dans les deux sahih: chacun d'entre vous est un responsable, et chaque responsable sera questionné à propos de ceux qui sont sous sa responsabilité. Si on traduit comme ça, c'est-à-dire, chacun d'entre vous est un berger, et chaque berger sera questionné sur son troupeau. Donc de là, tu peux t'étonner des gens qui passent leur journée, ou alors quand ils sont autour d'un dîner, à parler de tel gouverneur ou de tel gouverneur, alors que ce sont des gouverneurs qui restent musulmans. Puisqu'ils n'ont pas extériorisé de la mécréance, ils n'ont pas appliqué sur eux-mêmes le fait qu'ils étaient mécréants, et il ne nous appartient pas à toi et moi de déclarer leur mécréance, puisque, comme on le connaît, le takfir, il a certaines conditions, et il revient à des gens de bon droit, surtout quand ça concerne des gens qui sont à cette place, et dont le takfir, il a des conséquences énormes. Et tu vois des gens, ils sont là, et ils parlent de ça, ils parlent de ça, mais si tu le regardes, lui, dans sa vie de tous les jours, en tant que gouverneur, eh ben, il faudrait se révolter contre lui. Parce que lui, ses enfants, ils font pas la salat. Sa femme, elle met pas le hijab. La télé, elle tourne H24 chez lui, avec les chaînes musicales du Liban, de l'Égypte, les feuilletons mexicains qui passent à la parabole, etc., etc. Et après, il est là, il mange ses cacahuètes, il dit: ouais, le gouverneur du Maroc ou le gouverneur d'Algérie, si ça. Et toi, t'es le gouverneur de ta maison, subhanallah. Donc est-ce qu'il faut que tes enfants ils sortent contre toi, ils se révoltent si on écoute tes paroles? Donc chacun, c'est-à-dire ce genre de paroles, ce genre de hadith, nous on ne va pas en tirer une exhortation en tant que gouverneur, puisqu'on n'est pas des gouverneurs, Mais quelque part, on est des gouverneurs, comme il dit Cheikh ici, puisque chacun est gouverneur. Et Cheikh, il n'a pas cité ici aussi, mais c'est des situations qui peuvent arriver. C'est que tu peux être gouverneur dans le sens où on t'a confié un travail. Tu peux être chef d'équipe. Quel que soit ton travail, parce qu'il n'y a pas de travail qui n'est pas noble dans l'islam. C'est-à-dire celui qui gagne sa vie d'une façon licite, on respecte son effort, même s'il n'a pas de diplôme. Il pourrait être responsable d'une équipe dans les jardins publics. Il peut être responsable d'une équipe de nettoyage. Il ne faut pas le prendre à la légère, parce que quelqu'un, il t'a mis, même si c'est un non-musulman, il t'a mis responsable de gens. Et il te donne un salaire pour respecter cette responsabilité et respecter ton travail et faire respecter le travail pour lequel il te paye. Donc il ne fait pas partie de l'amana que toi après, la personne par exemple elle vient pas au travail et te dit ouais tu peux me signer quand même et toi tu signes, ouais il était là et il sera payé alors qu'il n'est pas venu, etc., etc. Ou alors de laisser les gens faire ce qu'ils veulent au travail alors que normalement ils devraient travailler, etc., etc. Donc c'est-à-dire il ne faut pas focaliser ce sujet sur une seule catégorie de gouverneurs. Les gouverneurs en islam, il y en a plein. Il y a le gouverneur du pays, mais chaque personne, dans sa responsabilité, elle est gouverneur. Lui, il est gouverneur de sa maison. Lui, il est gouverneur d'une chef d'une équipe au travail. La maman, elle est gouverneur de 10 enfants. Et chacun, il est gouverneur.
Wa an Aisha radiallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an, fashaqa alayhim, فَشْقُقْ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, celui qui a une responsabilité dans ma communauté et qui leur mène la vie dure, mène lui la vie dure. » Donc c'est ce que j'ai trouvé pour traduire yani, « فَشَقْ عَلَيْهِمْ فَشْقُقْ عَلَيْهِ » c'est-à-dire qu'il leur mène la situation, il leur mène la vie difficile. Alors Allah rend lui la vie difficile. C'est-à-dire c'est une doa du prophète contre eux, quelqu'un qui mènerait la vie difficile aux musulmans qui sont sous sa responsabilité. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Donc, c'est un peu dans le même sens que le hadith précédent. Donc, Cheikh, il dit, notamment, parce que là, il dit une parole, notamment, qu'on a déjà lue, mais il dit, ici, « Yujadu, wal'ayadu billah, kathirun minal muwazzafin, dhawil qulubil mayyita, wal nufusil marida, mimman yartahuna li adhiyatil khalqi bil mashakati alayhim. » Il dit, il se trouve parmi les gens, et nous demandons la protection d'Allah, beaucoup d'employés. Donc les employés, muwazzafin, c'est-à-dire les employés dans les entreprises ou dans les administrations, qui ont des cœurs morts et qui ont des âmes malades. Et qui sont contents de nuire aux gens. Et qui rendent la vie dure aux gens. فَتَجِدُهُمْ يُضَيِّعُونَ الْوَقْتَ بِالْقِيلِ وَالْقَالِ. Tu les trouves perdre leur temps dans un tel a dit et un tel a dit. وَلَا يَهِمُّهُمْ أَعْمَالَ النَّاسِ. Et les actions des gens et les œuvres des gens, c'est-à-dire comment on dit, les ijra'at en français, les procédures des gens, ça leur importe pas, alors que c'est leur responsabilité normalement. طالت مدة مراجعتهم فيها أم قصر أم قصرت. C'est-à-dire que les gens y passent du temps dans leurs procédures ou pas, ça leur importe pas. ويصرفون الناس عنهم بالوعود الكاذبة. Et ils détournent les gens de leur propre personne par des fausses promesses. Donc ça, celui qui a été dans le pays d'où il vit à Chir, il connaît. Mais ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire, l'employé te dit, reviens demain. Lui, il se fiche de savoir si... Donc là, ça rentre notamment dans celui qui a une responsabilité. Pour vous dire encore que c'est pas celui qui a la plus grosse. C'est aussi chacun qui a une petite responsabilité. Et il te dit, il te fait des fausses promesses. Reviens demain, je vais te faire ton papier. Parce que lui, comme Chéri dit ici, il lui importe peu si ça va prendre du temps pour toi ou pas. Et lui, il passe son temps à parler avec ses collègues. Donc ça aussi, ça, le musulman, il doit éviter ce genre de comportement. وَمِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ. Et ça rentre dans le hadith. Donc il mène la vie dure aux gens qui sont sous sa responsabilité. Donc celui parmi les musulmans qui a un poste où il fait les procédures des gens, où il est responsable des gens, il ne doit pas leur mener la vie dure. De crainte que ne le touche la doa du prophète. Que s'il mène la vie dure des gens, Allah va lui mener la vie dure. وَمِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ فَرَضُ مَا يُسَمَّى رُوتِينُ الْعَمَلِ وَنِظَامُهُ مِمَّا يَعْقِدُ الْمَسَائِلِ وَيُطِيلُ الْمُرَاجَعَاتِ وَيُضِيقُ الْحُقُوقِ فَالْوَاجِبُ تَخْفِيفُهُ مَا أَمْكَنَ الْحَالِ وَتَسْهِيلُ مُهِمَّةِ سَيِّرِ الْأَعْمَلِ. Donc là, il parle d'une chose que j'ai pas compris. Ça doit être propre à. Donc le mot qu'il a employé, c'est propre à.
quelque chose qui doit être connu en Arabie Saoudite chez les employés. ومن المشقة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل ولا قدرة له عليه ولا معرفة له فيه. Et aussi fait partie de du fait de mener la vie dure aux gens, c'est de mettre des responsables sur les gens qui ne sont pas dignes de cette responsabilité. C'est-à-dire ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur demande de faire et qui n'ont pas la capacité ni la connaissance. قال شيخ الإسلام فيجب على الوالي أن يستعمل الأصلح الموجود ويختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, il est obligatoire à un responsable d'utiliser les personnes les plus convenables qui sont présentes. Et il choisit les personnes les plus convenables et ainsi de suite, c'est-à-dire dans l'ordre de leur qualité. Et à chaque poste selon le, selon le, selon ce que ça demande. والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة وإلى الخبرة في الحروب. Et la force de la personne qu'on doit mettre à un poste dépend selon le poste. Donc il dit si par exemple c'est dans les affaires de guerre, alors c'est que la personne elle soit courageuse et elle ait de l'expérience dans la guerre. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم والعدل. Quand c'est un poste qui charge de juger entre les dents, entre les gens pardon, alors ça revient à la science et à la justice de la personne, c'est-à-dire à l'équité de la personne, c'est ça qui va être demandé. Et que cette personne qui va juger entre les gens soit capable d'appliquer ses jugements. Et plus la responsabilité est difficile, plus on doit mettre quelqu'un de confiance, comme dans le fait de garder les biens des gens. Et dans ce qui concerne la responsabilité du jugement, de juger entre les gens, on doit devancer les personnes les plus savantes et qui ont le plus de wara. Wara, c'est le fait de... Wara, c'est savoir s'abstenir de quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui ne tranche pas comme ça, elle a peur de ce qu'elle va dire. C'est ça, en gros, pour traduire ici le wara. وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية. Donc ce qui est voulu dans ce genre de chapitre, c'est de connaître ce qui convient le mieux à la responsabilité, et ça n'est possible qu'en connaissant ce qui est voulu dans telle ou telle responsabilité. بهذه الطريقة في التعيين على الأعمال تحصل السهولة في أعمال الناس. Donc dans cette façon de déterminer et de désigner les gens dans les actes et dans les travaux, la facilité vient dans les actes des gens. Parce que celui, c'est-à-dire ce qu'il veut dire ici, si vraiment les gens qui sont responsables, dans quoi que ce soit, ils choisissent à chaque poste la personne qui convient mieux au poste, eh bien après ça va être plus facile pour les gens. Pour les gens, c'est-à-dire qu'ils seront traités par cette entreprise ou cette administration, etc. Si tu mets un juge et tu as choisi le plus savant et le plus équitable, eh bien les gens ils seront bien jugés, etc., etc. ويبعد عنهم العسر والمشقة. Et ça va éloigner des gens la difficulté et les malheurs. Et dans ce chapitre, ce genre de domaine, il y a Cheikh Abdel Mouhsin Al-Badr, Al-Abbad, il a écrit une risala. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Nasihatun il al-Muwaffafin. C'est-à-dire un livre qui est spécialement destiné aux employés. Parce que dans certains pays, les employés ont tendance à être laxistes et à ne pas respecter les gens. Donc Cheikh Abdel Mouhsin, donc, et ça montre qu'il est un savant, un alim murabbi, puisqu'il s'occupe jusqu'à ce genre de domaine. Il a fait un livre pour les conseiller et pour leur dire de respecter les droits des musulmans. Ça montre aussi que le musulman, il doit être loin de l'amour des responsabilités. Et il ne doit pas se prétendre, des fois le musulman il peut croire de lui-même qu'il est apte à telle ou telle responsabilité. Et après quand on ne le choisit pas, eh bien, il se met en colère. Alors qu'il y a Akhi, peut-être tu n'as pas été choisi parce que la personne qui choisit, elle voit que tu n'es pas apte. Et à ce que je sache, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un savant pour pouvoir revendiquer j'aurais dû avoir tel poste, j'aurais dû avoir tel poste. Donc quand des frères ils ont des affaires entre eux, eh bien ils doivent respecter ça. C'est-à-dire que parfois un frère il peut être amené à choisir des gens pour des postes, choisir qui va être avec lui dans tel projet. Et dans tel domaine, les finances, ça va être un tel. La science, ça va être un tel. La gérance, ça va être un tel.
et il peut être amené à choisir. Et donc on se doit de respecter son choix, et la personne ne doit pas dire pourquoi je ne suis pas dedans. Subhanallah. Ça c'est une teskiya de nefs. Tu te vantes, ça veut dire tu vois que tu aurais pu et tu aurais mérité, et que l'autre il aurait dû considérer que tu mérites d'être à cette responsabilité. Subhanallah. Est-ce que c'est ça le comportement du musulman? Alors que le comportement du musulman c'est être tawadwa, le fait d'être modeste. Si on t'a pas choisi, tu dis, et alhamdoulilah, j'aurai pas de responsabilité sur lesquelles je serai questionné devant Allah Azza wa Jal. Et ça montre aussi qu'une personne qui aurait été désignée, et qui après elle se rend compte qu'elle peut pas, eh ben, elle laisse la responsabilité à la personne qui convient le mieux à la chose. Et tout ça, ça doit pas causer de haine ou de dispute entre les gens. C'est une question de responsabilité et d'affaire de musulmans, pas une affaire d'ego. Moi je voulais, et lui il veut, et etc. Et je suis content, et l'autre il est pas content. Ça, tout ça, il faut le mettre de côté. Ça, c'est les caractéristiques qu'on avait avant d'être dans l'islam, et avant d'être dans la sunna. Maintenant qu'on est dans la sunna, on doit prendre les caractéristiques dont qu'on profite de ce genre de hadith, et qu'on profite de ce genre de paroles de Cheikh Abdallah Al-Bassam. Après le hadith suivant, il dit « وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه. » Il dit ici, lorsque l'un d'entre vous combat, qu'il évite le visage. Donc notamment dans l'explication, ça dans les deux sahih, ça montre notamment que la personne n'a pas le droit de frapper qui que ce soit dans le visage. Donc ce soit avec les enfants, avec la femme, la personne n'a pas le droit de frapper au visage. On passe au hadith suivant, il dit « وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب أخرجه البخاري. » Ici dans le hadith, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, conseille-moi. » Il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Et il lui a demandé plusieurs fois, et à chaque fois il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc, pour celui qui regarde dans le livre, le deuxième tardab, ils ont mis une damma. Ils n'auraient pas dû. C'est une soukoun. La tardab. « Ma yukhadu min al-hadith, al-ghadabu jima'u shar. » Cheikh dit donc, dans ce qu'on profite du hadith, la colère, c'est quelque chose qui regroupe tous les mots. « Waja'at in-nususu al-kathiratu fil-bu'di an. » Et beaucoup de textes sont venus pour montrer qu'il faut s'éloigner de la colère. ففي المسند من حديث ابن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب قال الصحابي ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. Il a été rapporté donc dans le musnad de l'imam Ahmed du hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il a dit, quelqu'un a posé la question au prophète, ou lui-même, pardon, a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui m'écarte de la colère d'Allah? Et il lui a dit, ne te mets pas en colère. Et ce sahabi dit, j'ai réfléchi un peu et je me suis rendu compte que la colère regroupait tout le mal. Ensuite il dit, Cheikh Abdallah, وَهَذَا الرَّجُلُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي شَيْئًا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ. Il dit donc, cette personne, dans le hadith, il est cité, qu'il est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, enseigne-moi quelque chose, mais ne m'en dis pas trop, c'est-à-dire ne me dis pas trop de choses, des choses qui seraient trop nombreuses pour moi. فَقَالَ لَا تَغْضَبْ. Il lui a dit donc, eh bien, ne te mets pas en colère. رَدَّدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَغْضَبْ. Et à chaque fois que la personne lui repose la même question, le prophète répond, ne te mets pas en colère. قَالَ ابْنُ رَجَبْ قَوْلُهُ لَا تَغْضَبْ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ. Ibn Rajab, rahimahullah, donc un des grands savants, et qui a écrit une explication des 40 hadiths. Et il a écrit notamment une explication de Sahih al-Bukhari, qu'il n'a pas pu accomplir parce qu'il est décédé avant. Et il a écrit avant ça l'explication de Sunan al-Tirmidhi. Il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ne te mets pas en colère », ça supporte deux significations. « Ahaduhuma » أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الحلم والحياء والأناء والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكذب الغيظ والطلاق والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند وصول أوجب ذلك أوجب لها ذلك دفع الغضب عند وصول أسبابه. Il dit, on peut comprendre quand il lui a dit ne te mets pas en colère. C'est qu'il lui conseille de faire les causes qui écartent la colère, c'est-à-dire de s'habituer à être clément, à pardonner, à laisser passer, à être calme, etc. Parce que quand la personne va s'habituer à ces caractères-là, à être calme, à être clément, à pardonner, à laisser passer, quand les causes de la colère vont lui venir, elle ne va pas se mettre en colère. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est habituée à des caractères qui sont loin de la colère. Donc quand le prophète lui a dit « ne te mets pas en colère », on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire sans, avant qu'il y ait quelque chose qui le mette en colère, lui déjà il s'habitue à être quelqu'un de doux et de clément. Et donc quand la colère, les causes de la colère vont lui venir, il ne va pas se mettre en colère.
الثاني أن المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به الله فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له.
La deuxième signification que peut supporter cette phrase « ne te mets pas en colère » c'est que c'est « n'agis pas en conséquence de la colère quand elle te vient ». Quand effectivement tu t'es mis en colère, n'agis pas en conséquence. Mais au contraire, fais un effort sur toi-même et combat ton âme pour délaisser l'application de cette colère. Et d'agir selon ce qu'Allah t'a ordonné. Car la colère, quand elle prend possession de quelqu'un, c'est elle qui l'ordonne et c'est elle qui l'interdit.
وقال في مختصر الإحياء.
Là, il cite une parole dans le résumé de l'Ihya. Je pense que ce livre, il est de Ibn al-Jawzi. Parce qu'Ihya al-Umiddin, c'est de Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Et je sais qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, donc à ne pas confondre avec Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Il y a Ibn al-Qayyim al-Jawziya et Ibn al-Jawzi. C'est deux personnes différentes. Et je sais qu'Ibn al-Jawzi, il a fait un mukhtasar, un résumé de l'Ihya.
Donc peut-être que c'est ça qui est cité ici. Il n'a pas cité le nom de la personne. En tout cas, il dit
علاج الغضب يكون بحسم مادته التي تهيجه وأسبابه التي تثيره. Il dit le remède à la colère, c'est en contenant les causes qui remuent la colère et qui causent la colère.
وأما إذا هاج فيعالج بأمور منها أن يفكر بأمور منها أن يفكر في الأخبار الواردة في فضل كذب الغيظ والحلم والاحتمال.
Mais quand effectivement la colère prend possession de la personne et arrive, alors il va la soigner en réfléchissant à certaines choses qui sont les hadiths et les textes qui parlent du mérite de contenir sa colère et qui parlent de la clémence et du fait de supporter le mal des autres. Donc il parle ici du remède à la colère. Le remède à la colère, c'est de s'éloigner des causes de la colère, et une fois que la colère arrive, si elle arrive, c'est de lutter contre elle en pensant aux hadiths qui parlent du mérite de pardonner, etc.
وقد جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم.
Et il est rapporté dans les deux sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme dur n'est pas celui qui s'en prend aux autres. As-sura'a, c'est-à-dire celui qui agresse les autres, qui maîtrise les autres entre guillemets. Mais l'homme dur, c'est celui qui contient son âme lors de la colère.
ومن حديث سلمان بن سعد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Et toujours dans les deux sahih, un sahabi raconte que deux hommes s'insultaient devant le prophète صلى الله عليه وسلم et nous étions là. Donc l'un des deux insultait son compagnon et il était en colère et son visage était rouge. Et le prophète, quand il les a vus, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je connais une parole, si cette personne l'avait dite, ça aurait fait partir tout ce qu'il ressent en ce moment, s'il avait dit, a'udhu billahi minash shaitani rajim. C'est-à-dire, je cherche la protection d'Allah contre le diable. Le hadith suivant, donc, il dit,
وَأَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري.
Ici le hadith dit certains hommes gèrent mal les biens d'Allah sans droit, c'est-à-dire ils gèrent les biens d'Allah ou ils transgressent dans les biens d'Allah, l'argent, sans droit, et ils auront le feu au jour du jugement. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc, il dit ici, Cheikh, dans l'explication,
المال جعله الله تعالى قواما ومتاعا في هذه الحياة الدنيا.
Allah a fait que l'argent et la fortune, c'est une base et c'est un bienfait ici-bas.
فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
Allah a dit, ne donnez pas aux insensés vos biens qu'Allah a mis pour vous comme قياما, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait subsister.
وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
Et Allah, dans la description de ses serviteurs, il a dit, et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne font pas de gâchis et ne font pas d'excès, eux, ils ne font pas d'avarice, mais ils sont entre les deux. C'est-à-dire, ils ne font pas d'excès, et non plus, ils ne font pas d'avarice, mais ils sont entre les deux.
فَالْمَالُ ذُو فَائِدَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا.
Donc l'argent a un grand bénéfice et un grand profit, ici-bas et dans l'au-delà. Pardon, dans la vie d'ici-bas et dans la religion.
وإنفاقه في غير سبيل الخير والطرق النافعة المفيدة سفه وإسراف وتبذير.
Mais le fait de dépenser dans autre que les chemins du bien et dans les chemins profitables, c'est de la sottise et c'est du gâchis.
وقد قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
Et Allah a dit, ceux qui font le gâchis, المبذرين, sont les frères des diables.
والمال بيد المسلم المال بيد المسلمين وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى.
Et le bien qui est dans les mains des musulmans et dans les biens des responsables des musulmans, c'est le bien d'Allah Azza wa Jal.
استخلفهم عليه. C'est lui qui les a mis responsables sur ce bien.
لينفقوه في طرقه المشروعة النافعة.
Pour qu'ils le dépensent dans les chemins légiférés et les chemins bénéfiques.
والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة. Et les chemins qui sont profitables dans ce qui concerne les choses d'ici-bas et les choses de l'au-delà.
قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
Allah dit, et dépensez de ce sur quoi Allah vous a mis responsable, ou plutôt, et dépensez de ce qu'Allah vous a confié.
أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه.
C'est-à-dire, dans l'explication, ce sur quoi Allah vous a rendu responsable et il vous a rendu responsable dans la gestion de ses biens.
فالمال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله.
Donc les biens sont à Allah. Et les serviteurs sont les responsables qu'Allah a mis pour gérer ses biens.
فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا فِي مَا يُرْضِي.
Donc il convient qu'ils dépensent ses biens et qu'ils les gèrent selon ce qui convient et ce qui plaît à Allah.
أَمَّا التَّخَوُّضُ فِيهِ وَالتَّصَرُّفُ بِالْبَاطِلِ وَفِي غَيْرِ الطُّرُقِ الْمَشْرُوعَةِ فَهَذَا حَرَامٌ وَأَكْلٌ لِمَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ.
Quant au fait de mal gérer les biens et de les dépenser dans des chemins qui ne sont pas légiférés, ça c'est haram, c'est interdit, et c'est manger le bien d'Allah sans droit.
وَهَذَا يَشْمَلُ أَمْوَالَ النَّاسِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ وَتَخُصُّهُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا إِلَّا بِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى.
Et ça implique aussi, et ça concerne notamment, les biens individuels des gens, ce qui leur appartient à eux-mêmes. Il ne leur appartient pas de les dépenser dans autre que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal.
لِتَكُونَ عَوْنًا لِمَرْضَاتِهِ فِي مَا يُقِيمُ دِينَهُمْ.
Pour que ça soit une aide à acquérir la satisfaction d'Allah dans ce qui dresse et ce qui fait vivre leur religion.
وَفِي مَا يَنْفَعُ عِبَادَهُ فِي دُنْيَاهُمْ.
Et ce qui est bénéfique aux serviteurs d'Allah dans leur vie d'ici-bas. Donc c'est-à-dire l'islam, contrairement par exemple au communisme, l'islam y reconnaît la propriété de chacun. Et l'islam n'impose pas à la personne de donner de ce qu'elle donne sans qu'elle le veuille, si ce n'est cette zakat qu'Allah a imposée dans l'or, dans l'argent, dans les trésors, dans les biens du commerce et dans les cultures et dans les bestiaux, c'est-à-dire les chameaux, les vaches et les moutons. Donc à part dans ces choses-là et dans des proportions qui sont quand même assez restreintes et qui sont censées être redistribuées aux personnes qui en ont droit, comme les pauvres ou les gens à qui est arrivé un accident. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que rentrent parmi les catégories de gens qui profitent de la zakat les gens qui ont eu un accident inhabituel, par exemple un incendie ou un accident de voiture, et ils perdent un bien qui est cher, c'est-à-dire une maison, ou ils perdent une voiture, etc. Il faut savoir que dans la législation islamique, ces gens profitent de la zakat. C'est-à-dire, ça, même s'ils sont riches, ça vient compenser un manque qu'ils ont eu de façon inopinée. comme un incendie qui viendrait brûler la maison, par exemple. Pourquoi je vous raconte ça ici, la parenthèse, c'est pour que on réponde à cette question qui peut venir dans nos têtes et qui nous dit, d'accord, l'assurance c'est haram, mais alors si vraiment il y avait, on faisait un état, et alhamdoulilah, et d'ailleurs il en existe, qui juge avec la loi d'Allah, et il n'y a pas l'assurance, comment on fait? C'est-à-dire l'islam, est-ce qu'il dit l'islam que j'aurai un incendie de maison et après je vais dormir dehors? Une personne elle peut dire, ben, l'assurance c'est mieux. Alors que l'assurance, comme c'est de riba, en découle beaucoup d'injustices. Et en découle beaucoup d'esclavagisme, c'est-à-dire des gens qui, grâce à ce système de riba, profitent d'autres gens et les affaiblissent dans leur richesse. Alors que dans l'islam, il y a une solution à ce genre de problème. Cette solution, c'est quoi? C'est la zakat. Si une personne elle a un accident inhabituel ou elle a un incendie dans sa maison, elle a le droit dans l'islam d'aller demander au gouverneur et qu'il lui donne de la zakat pour compenser son bien. Et ensuite, bien sûr, ça s'est estimé. C'est pas comme ça, c'est avec des estimations, etc. Donc l'islam répond à ce genre de... L'islam certes interdit l'assurance, mais il y a quelque chose aussi qui peut convenir aux besoins des gens à qui il arrive un accident, etc. Donc c'est-à-dire, comme je disais, l'islam il reconnaît la propriété de l'individu. Et il reconnaît que l'individu possède. Et l'individu il peut être riche. C'est-à-dire c'est pas une interdiction dans l'islam. À condition qu'il ne fasse pas de gâchis. C'est quel est le gâchis? C'est-à-dire qu'il dépense dans ce qui est interdit. Ou alors qu'il dépense à excès dans ce qui est licite. C'est-à-dire il dépense dans ce qui est licite mais à excès plus qu'il n'en a besoin. De telle sorte que ça finisse par être inutilisé ou par être jeté. Comme pour ce qui est l'exemple de la nourriture. Alors que l'islam il nous apprend tout l'inverse. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait dit dans un autre samedi, comme il dit Anas, « In kasara qadahun nabi sallallahu alayhi wa sallam, faja'ala makana shi'abi salsalatan min fidda. » Il dit, le verre du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassé, Anas raconte, radiallahu anhu, le verre du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassé, al-qadah c'est un petit verre. Et il l'a réparé en mettant de l'argent dans la fissure. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Certes, les ulama ils mettent ce hadith dans le chapitre des récipients. Et pour montrer qu'on a le droit, si on n'a pas le droit au récipient en argent, on a le droit au récipient qu'on peut réparer avec de l'argent. Mais on peut en tirer autre chose. C'est, si on regarde plus loin, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son verre il se casse, il fait pas comme nous. Il jette le verre. Il le répare. Ça fait partie du respect des bienfaits d'Allah sur la personne. Il ne jette pas comme ça, il répare. Ou alors le hadith de Maymouna, quand un sahabi raconte que Maymouna avait un petit mouton, et ce mouton est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les gens de sa maison traîner le mouton, c'est-à-dire ils allaient pour le jeter, le cadavre. Parce qu'un cadavre, on ne peut plus le manger, parce qu'on ne l'a pas égorgé. Et c'est une impureté dans la religion. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Hal lan tafa'tum biha biha? Il leur a dit, pourquoi ne profitez-vous pas de sa peau? Qalu innaha mayta. Ils ont répondu, c'est une bête morte. Et il a dit, yutahhiruha al-ma'u wal-qarad. Elle sera purifiée par l'eau et al-qarad c'est une sorte de plante. Parce qu'un autre hadith dit, idha dubira al-ihabu faqad tahur. Quand la peau est tannée, elle devient pure. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas laissés aller jeter un mouton sans qu'on profite de sa peau. Et il a dit prenez sa peau, tannez-la et elle deviendra pure. Ou l'autre hadith où, on l'avait cité aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voit une datte par terre et il la prend pour la manger. Mais après il l'a pas mangé, pourquoi? Parce qu'il a dit je crains qu'elle vienne des dattes de l'eau, de la sadaqa, c'est-à-dire de la zakat, qu'elle ait été récoltée dans la zakat. Or le prophète n'a pas le droit de toucher de la zakat et n'a pas le droit de prendre des aumônes des gens. Spécifiquement lui et ses descendants et sa famille, alors que le reste des musulmans ont le droit quand ils ont besoin. Mais le prophète, même en besoin, il n'avait pas le droit de prendre les aumônes. Mais regardez ce que je veux dire par là. Certes, il ne l'a pas mangé, mais pour une raison précise. Mais sinon, il voulait la manger. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé une datte par terre comme ça. Ben, c'est tout, la datte elle est par terre, on va l'acheter ou on ne va pas y attirer d'attention. Il voit une datte, il la fait pas, il la laisse pas perdre, gâcher. Il va pour la manger. C'est un respect envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal vers les gens. Que quand il te donne quelque chose, tu ne le gâches pas et tu ne le jettes pas. Et tu ne le laisses pas se pourrir ou se jeter comme ça. Donc certes, l'islam il reconnaît la propriété des individus et il reconnaît que la personne elle peut et il n'interdit pas à une personne de s'enrichir, mais à condition qu'elle respecte les droits d'Allah dans ses biens. C'est-à-dire qu'elle dépense de la zakat qu'Allah lui a ordonnée et qu'il fasse un nafaqat al-wajiba, c'est-à-dire les dépenses qui lui sont obligatoires. S'il est père, qu'il dépense pour sa femme, ses enfants, ses parents, etc. etc. À part ça, l'islam respecte la propriété et la gestion de l'individu dans ses biens. Contrairement, par exemple, au communisme, qui impliquerait que les personnes ne possèdent rien. Ils travaillent, après ils vont au magasin, ils prennent ce dont ils ont besoin, et tout appartient à l'État. Et l'État partage entre les gens. L'islam, il est entre les deux, donc entre ça et l'extrême, qui voudrait que les gens y possèdent, ils s'enrichissent, aux dépens des autres, sans ne rien devoir à personne. Donc l'islam, il a mis une ligne de conduite entre les deux. Il reconnaît la propriété et l'enrichissement des individus, tout en leur imposant de dépenser pour le droit des plus faibles d'entre eux qui ont besoin donc de leur surplus de biens.
كما يشمل الولاة فعليهم أن يصرفوا مال الله تعالى فيما يعزز دينه.
Et ça, ça concerne aussi les responsables des musulmans, donc qui doivent dépenser les biens d'Allah dans ce qui renforce sa religion.
ويعلي كلمته et qui élève sa parole. وعلى ما ينفع الرعية والبلاد
et qui est bénéfique pour son peuple et pour le pays.
من المشاريع النافعة
parmi les projets, les grands projets utiles.
والزراعة
et les plantations.
والصناعة والتعليم
et l'industrie, et les métiers, et l'enseignement.
وَالْمَرَافِقِ الْعَمَّةِ
أَلَّتِي تَنْفَعُ عُمُومَ الرَّعِيَّةِ et les projets généraux qui profitent à l'ensemble du peuple.
وَفِيمَا يَنْفَعُ عِبَادَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ
et tout ce qui peut être bénéfique aux gens dans leur vie d'ici-bas.
الْحَدِيثُ يَشْمَلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالٍ لَا يَسْتَحِقُ أَخْذَهُ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَالِ مَصْرَفٌ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ ولكنه يعمل الحيل والطرق التي تمكنه من الأخذ منه فهذا أخذ بالباطل.
Et comme ce dernier morceau concerne beaucoup d'entre eux, les musulmans, il dit ce hadith concerne aussi les gens qui prennent de l'argent auquel ils n'ont pas droit. C'est-à-dire que c'est un argent qui est spécifié pour une certaine catégorie de personnes et lui ne rentre pas dedans. Alors il va faire des ruses et des hiyal, entre guillemets, des trafics, qui vont, il va emprunter des chemins qui vont lui permettre d'acquérir cet argent. Et dit, et ça, c'est, il prendra cet argent de mauvais droit, c'est-à-dire bilbartil. Il ne le prendra pas de bon droit, et à la base, il n'en a pas le droit. C'est-à-dire, le hadith implique aussi l'interdiction de chercher à profiter d'un argent dont la personne n'a pas le droit. Et ça, c'est ce que certaines personnes ils peuvent faire avec les aides du gouvernement. Par exemple, la personne, elle peut pas profiter du RMI parce qu'elle travaille. Donc, je ne sais pas comment vous l'appelez en Belgique. Alors, en tout cas, c'est l'aide aux gens. Ils travaillent pas, donc ils ont une aide minimale pour vivre. Mais la personne, tu la vois à côté, elle travaille. Elle touche ses 1 2 3 4 500 euros par mois. Si l'État, il savait ça, jamais il lui donnerait son RMI. Mais il va à l'État et dit, il déclare ce trimestre-ci 0 euros. Vous avez travaillé ? Non, j'ai pas travaillé. Et des fois avec sa barbe. Et il dit, non, j'ai pas travaillé ce mois-ci. Ah d'accord, monsieur, vous n'avez pas travaillé ? Eh bien, on va vous donner votre allocation. Ou alors, dans les allocations logement aussi. Il change les nombres de pièces, il change le nombre de gens qui sont sous sa responsabilité, etc., etc., pour avoir plus d'aide au logement. Donc ça rentre dans ce hadith aussi. Parce que tu prends de l'argent qui ne te revient pas. Il ne faut pas dire, ouais, c'est l'argent des koufars. Et alors, subhanallah, la dunya, c'est le désordre. Allah, il nous a imposé comme ça le désordre, on fait ce qu'on veut. C'est un monde de pirates. Chacun, il fait ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut. C'est quoi ça? Ça, c'est pas la moralité de l'islam. Donc, ça fait combien de temps là? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. On reprend demain à 11h, inshallah. Nas'alullah ta'ala, an yarzuqana al-ilma al-nafi' wal-amal al-salih. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه